une photo de Jean Gabin et je veux vivre à son époque. Je veux que les gens parlent et s'habillent comme dans la traversée de Paris. Sans doute, si j'avais vécu à cette époque, j'en aurais voulu une autre, celle de l'entre-deux-guerres. L'éclosion des avant-gardes, l'art qui fait feu de tout bois comme une banderille de bison 4 explosant à la face des vieilles structures. Je veux déjà y vivre, toujours un autre temps et un autre lieu. L'effervescence révolutionnaire et le secret de la Russie des années 1860. Des groupuscules d'extrême gauche qui se déclinent à l'infini dans un chaos idéologique indémêlable. Une atmosphère confuse où je comploterai avec des silhouettes voûtées et anxieuses dans l'arrière-salle d'un rave brouillant. Puis passer un long moment sur une route de terre avec un samouraï désargenté. Ou alors traîner dans les faubourgs malfamés d'un vieux Buenos Aires. J'y boirai des litres d'alcool disparu, puis surprendrai un duel au couteau dans une ruelle cernée par les rats. Je partirai ensuite avec le vainqueur en Araucanie. Dans des contrées troubles, où se mêlent trafiquants d'alcool, gardes militaires corrompus et voleurs d'un jour. J'y travaillerai la terre pour façonner mes mains, les abîmer, faire bien grossir mes doigts, que cela poussière incrustée et les peaux mortes, l'on ne distingue plus les délimitations entre les phalanges. Je connaîtrai des animaux anonymes que je traiterai comme tels. Puis, je partirai à Londres, pour assister à la révolution industrielle. Tout serait sale et en noir et blanc. J'y ferai les marchés avec des adolescents gouailleurs, puis, sous un haut de forme, j'y entendrai un anglais d'un autre temps. Me voilà dans un vieux château fort et je vois Édouard VIII défier le pape. Je vois ses vies avec ses différentes épouses successives, et la voix égale et douce de ma prof d'anglais de 4e me berce alors que je visite les forges et raffineries de Brighton. Plus tard, je suis un homme de confiance de la première mafia sicilienne à New York. Je bois un vieux whisky dans un verre épais, entouré d'hommes au ventre énorme, sous les chemises parfaitement blanches. Je vois que mon élégance attire les filles naïves qui dansent sans penser à rien d'autre, dans des robes de poupée. Le pistolet à ma taille n'est presque pas mortel. Le lendemain, je retourne à Paris pour y approfondir mes relations avec les surréalistes. Je rencontre beaucoup d'individus fantasques dans les cafés d'un Montmartre encore humain. Nous parlons de refaire un alphabet, de remplacer les beaux mots usés par d'autres qui seraient plus expressifs. Je visite plusieurs ateliers et assiste à l'éclosion de l'art moderne. On y écrit sur des nappes et les scandales au théâtre deviennent quotidiens. Déguisements en carton et récitation simultanée de poèmes abscons dans des langues inventées. Un autre jour, je suis à Chicago, ou à la Nouvelle-Orléans, à la recherche du « hit ». J'entre en transe sur des banquettes profondes, dans un bar uniquement peuplé de noirs. Je m'endors dans les seins opulents et maternants d'une femme oreillée, sur une peau un peu tannée, abrutie par la cacophonie des cuivres. Dans mon rêve, je suis dans un petit village du sud-est de la France, dans les terres. À la terrasse du seul café du village, je sirote quelque chose comme un Diabolo 13. Mon odorat et mon goût atteignent une sorte de symbiose quand un vent calme vient déposer autour de moi une onde de senteur, un mélange de fleurs et d'épices. La chaleur est apaisante et j'imagine dans un semi-éveil les histoires de vacances des familles qui traversent la place. Je me réveille la tête sur une table en verre, le nez dans un petit monticule de cocaïne. Là, il n'y a pas de cloison entre ma réalité et celle de la drogue. Rien de ce que je vis n'a de sens. Je fréquente beaucoup de belles femmes dans des décors luxueux. Je m'en rassasie aussi vite que d'un tartare. Elles sont des chairs en mouvement et leurs apparats sont pour moi une garniture qui ne m'enthousiasme que pour un temps court. Je me réfugie dans un souk marocain qui sent le tapis. Habillé en étudiant coranique, je bois le thé avec de vieux monsieur au regard protecteur. Tout au fond de l'échoppe, caché par un épais rideau, nous parlons de nos familles et j'apprends que l'un d'entre eux a bien connu mon grand-père du temps de Ben Barka. Il me dit qu'il lisait beaucoup Camus. Nous n'en parlons pas plus longtemps car je dois partir pour un immense marché sur les hauteurs de la passe. Je me fraye un chemin entre les étals collés au milieu d'odeurs de friture. J'achète quelques fruits inconnus en Europe, puis au détour d'une allée, je tombe sur une petite place remplie d'ordures. S'y tient ce que je crois être un meeting politique. Il est composé uniquement de femmes, vêtues de chapeaux melons et de plusieurs couches de robes traditionnelles. Les effluves d'urine séchée ne constituent pas un désagrément. À mon retour en France, je m'assois au milieu d'une très grande table, autour d'une bonne dizaine de convives. L'abondance de nourriture est telle que les plats se grimpent les uns sur les autres. Une énorme dinde fourrée trône au milieu. Les assiettes de charcuterie empiètent sur des plateaux de fromage qui dessinent une géographie de la France qui me semble alors la plus évidente de toutes. Des petits groupes de discussion de 3 ou 4 personnes se forment partout autour de la table. Certains se murmurent des confidences, d'autres sont plus bruyants. On voit des hommes taper au goulot des fonds de bouteilles de vin cher. En bout de table, quelqu'un pousse la chansonnette, un poème de son cru qui exalte le plaisir de la chair animale.